L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous retrouver, Maud et Alex, pour ce cheminement autour de l'Évangile pour le couple. Nous sommes en train de, entre guillemets, de boucler, si on peut dire boucler, ce cheminement pendant ces premières émissions autour de la Genèse. Et on va essayer là de prendre un peu plus de recul. On s'est rendu compte.
Ce serait bien de rappeler que on est parti de Matthieu 19, qui est le texte de l'Évangile où Jésus parle du mariage, en faisant référence à la Genèse. Donc on est là, on vient de passer deux trois rencontres à méditer ces premiers chapitres de la Genèse pour comprendre comment est-ce que l'homme et la femme étaient fabriqués, entre guillemets, et comment est-ce que Dieu avait souhaité inscrire en nous cette soif et ce désir d'amour et de bonheur et d'exultation mutuelle.
Et qu'on avait vu que en nous cohabite un peu de nature, la nature, cette notion, cette doctrine qu'a beaucoup développé les pères de l'Église et nos frères chrétiens orientaux, sur cette vraiment ce combat qui habite en nous, et c'est aussi toute la notion, tout le combat spirituel et de nature aussi qu'évoque saint Paul. Et c'est pour cela que on va peut-être repartir d'une autre parole, d'un autre évangile, dans Matthieu, toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, où il est dit: le médecin n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce sont des paroles que nous connaissons, mais peut-être que nous avons peut-être pas souvent entendu pour nous-mêmes, en tant que jeune qui se prépare à une vie affective ou qui vit une vie affective, ou en tant que couple, jeune marié ou marié après plusieurs années d'expérience, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ou plus, combien effectivement nous avons tous fait l'expérience que nous sommes malades d'amour. Nous sommes malades de l'amour. Nous sommes, je crois que tu l'avais dit l'autre jour, Maud, nous sommes handicapés de l'amour. Et que... Et il faut prendre conscience que cet appel que nous vivons dans l'Église avec le Christ, c'est pas d'abord pour les bien portants. C'est fait pour les tocards. Et moi, j'aimerais vraiment inviter nos différents auditeurs à vraiment dire, mais bon, l'Église, excusez-moi de parler de manière peut-être un peu familière, mais l'Église, effectivement, on est un peu une bande de tocards. Bah oui, parce que, et en plus, bah les premiers, c'est les super tocards. Bah oui, parce que pourquoi? Parce que vous savez que les deux, si vous avez un peu de culture religieuse, vous savez que les deux colonnes de l'Église, c'est Pierre et c'est Paul. Et ben Pierre, qui c'était? Ben Pierre, c'était un Jojo les gros bras, qui était un peu orgueilleux, prétentieux, et qui a dit: Jésus, moi je te suivrai jusqu'au bout du monde. Et dès que ça a commencé un peu à chauffer, il s'est cassé, et il a trahi trois fois. Ça c'est pour le premier. Et le deuxième, c'est qui? Ben c'est Paul, grand intellectuel, qui cassait du chrétien, qui faisait casser du chrétien par ses sbires, parce que lui, ça lui salissait les mains. Et puis après, il a rencontré Jésus. Donc l'un était un orgueilleux poltron. Et l'autre était un criminel qui cassait du chrétien. Voilà ceux qui sont les deux colonnes de l'Église. Donc si jamais ça peut pas nous convaincre que l'Église s'est d'abord fait pour les tocards, pour ceux justement qui étaient, effectivement, qui pour eux-mêmes, d'eux-mêmes, ont pris vraiment conscience de l'amour de Jésus, du pardon de Jésus, de la guérison, et que c'est vraiment fait pour nous, et pour nous en tant que couple, c'est pareil. On n'est pas d'abord des bons chrétiens, bien moraux, qui faisons tout parfaitement bien, etc. Et donc on a la place dans l'Église. Non, notre place d'abord, l'appel premier, il est d'abord vis-à-vis des hommes, des femmes, qui ont envie de réaliser vraiment un bonheur fantastique dans leur vie conjugale, mais qui sont bien conscients qu'ils n'ont pas les éléments, qui sont pas faits pour, qu'ils n'y arriveront pas de même, mais qu'avec Jésus-Christ, ils vont pouvoir vivre de cette joie-là. Mais c'est Jésus qui va nous conduire.
Si on se rappelle de ce texte de Matthieu 19, quand les pharisiens discutaient avec Jésus sur la possibilité de répudier sa femme, etc., quand les disciples en parlent en disant: enfin écoute Jésus, c'est absolument impossible ton truc, vaut mieux pas se marier que de se retrouver coincé dans une situation aussi impossible, on avait lu ce texte où Jésus a cette parole mystérieuse: cela n'est possible que pour ceux à qui cela est donné. Donc la question pour nous, enfin en tout cas c'est la première chose qui nous a interpellés avec Alex quand on a travaillé ce texte, on s'est dit mais c'est quoi ce don? C'est quoi ce don qui permet de réaliser l'impossible? Qui fait que ce qui est impossible à l'homme, Dieu peut le réaliser. Hein, c'est bien les textes qu'il y a dans un autre évangile. Si c'est impossible à l'homme de s'aimer, d'arriver à aimer l'autre, de répondre à ses aspirations d'amour, alors quel est ce don qui va nous permettre de réaliser cette aspiration d'amour? Et c'est là-dessus finalement que tout va se jouer. Comment est-ce qu'on va sortir de cette situation dramatique?
Et c'est là où tout l'évangile et tout le cheminement de Jésus, on se rend bien compte que ce don, eh ben c'est Jésus lui-même. C'est toute l'œuvre de sa vie, ce don. Nous pourrons réaliser cette bénédiction originelle si vraiment nous accueillons Jésus comme le salut du couple. Et c'est en cela que le sacrement de mariage, c'est l'accueil de Jésus-Christ comme salut. C'est le cœur, justement, de la bonne nouvelle. Le sacrement de mariage, c'est pas un coup de goupillon, cateau, machin. Non, c'est vraiment le don, ce qui n'était pas possible. Quand vous engagez l'un en face de l'autre pour la vie, qu'on se regarde bien dans les yeux, et moi je te regarde bien dans les yeux, je me suis convaincu que c'est irréalisable. Vraiment, la promesse que je t'ai faite il y a 24 ans, il y a 25 ans, effectivement, je savais parfaitement que c'était irréalisable. Mais avec Jésus...
Oui, Céline, t'aurais été un peu dingue quand même. Si tu disais ça en sachant que c'était irréalisable, franchement, on avait tout perdu là.
Voilà, mais c'est vraiment l'expérience, c'est que Jésus nous conduit au travers de ce sacrement à accueillir ce salut. Enfin, c'est concrètement salut, ça veut dire quoi? Sauveur. Sauveur, ça veut dire je me noie, je sais pas, je suis en train de mourir. Non,
là, je pense qu'on peut aller jusqu'au bout de l'exemple. C'est quand on dit que Jésus nous sauve, ça veut pas dire qu'il améliore un petit peu notre situation, quoi.
On saupoudre pas un peu pour améliorer l'ordinaire.
C'est carrément, je suis en train de me noyer. Notre amour est impossible, on se rend compte qu'on n'a pas de solution et qu'on va être obligé de se séparer. Et là, au moment où justement on croit qu'on est en train de mourir, hop, il y a une main qui nous tire de l'eau et qui nous sauve. C'est ça quelqu'un qui sauve. Quand on dit qu'on est sauveteur en mer, c'est pas un mot rigolo, c'est pour dire qu'on sauve quelqu'un qui est en danger de mort. Donc là, quand on parle du salut, on parle d'une action incroyable qui va permettre à l'homme et à la femme, au sein même de leur amour, de les sauver de la noyade.
Alors, moi j'imagine effectivement un certain nombre d'entre nous qui disent oh là-haut, avec ces mots de vous emporter un peu là. Alors, bon, effectivement, là on va essayer de revenir un peu. Qu'est-ce que dit par exemple le catéchisme de l'Église catholique là-dessus? Qu'est-ce qu'un sacrement? Le sacrement, on va reprendre, ça reprend après justement ce qui est dit par Vatican II, par le Concile, c'est le signe efficace, c'est le sceau d'une action transformante. C'est un don particulier et effectif qui a un effet dans nos vies. C'est un don vivifiant. C'est pas une symbolique religieuse, etc., etc., et simplement une belle photo sur la cheminée. Non, c'est une grâce efficace. Et donc effectivement, le sacrement de mariage, c'est vraiment le don du salut de Jésus-Christ en nos couples, en nos cœurs, en nos vies. Et donc effectivement, pour qu'il porte du fruit, il faut croire que ce sacrement est efficace. Alors effectivement, on pourra rentrer dans cette grâce et dans cet accueil, mais il faut pouvoir l'accueillir et grandir dans cette foi. On va peut-être davantage, après notre pause musicale, essayer d'approfondir, de mieux saisir la dynamique de ce sacrement. Mais on va peut-être finir avec Jean-Paul II en citant ce qu'il dit sur le sacrement de mariage.
Par le sacrement de mariage, le projet originel de Dieu, obscurci par la dureté du cœur des hommes, le Christ le restaure dans sa splendeur originelle, en révélant ce que Dieu a voulu dès l'origine.
Voilà, Jean-Paul II nous conduit, c'est là il fait la synthèse entre l'œuvre du Christ et tout le commentaire qui nous a aidé à faire sur la Genèse. Nous sommes appelés, au travers du sacrement de mariage, à goûter cette bénédiction originelle promise à tous les couples. On se retrouve dans un instant. continuons sur ce chemin de la révélation, de l'accueil de la révélation unique, exceptionnelle, de ce sacrement de mariage qui vraiment est le sceau du salut pour notre couple. Peut-être que Maud, tu veux nous inviter à aller un peu plus loin dans l'accueil de ce sacrement de mariage. Et pourquoi ce sacrement de mariage? Finalement, on voit autour de nous tellement de personnes et de couples, effectivement, qui sont unis par le sacrement de mariage, mais qui finalement ont pas l'impression de vivre de ce salut, ont pas l'air de enfin, pourquoi finalement c'est difficile de vivre la vocation de ce sacrement?
En fait, c'est l'aventure un peu de tout sacrement. Un sacrement, il est donné dans la foi de l'Église, il est agissant, efficace, mais il dépend, ça, c'est quelque part, sa puissance de déploiement dépend du cœur qui l'accueille. Et Jean-Paul II le rappelait souvent, c'est aussi la disposition des personnes qui reçoivent le sacrement qui lui en donne toute sa portée, toute sa plénitude. On s'en rend très bien compte quand on voit par exemple la grâce du sacrement de baptême pour un saint comme, mettons, Sainte Thérèse de Lisieux ou Saint François d'Assise, a été tellement déployée qu'ils ont fait des choses absolument extraordinaires dans leur vie d'intensité d'amour. Alors que, bon, pour beaucoup d'autres personnes comme nous, des chrétiens, je dirais, ordinaires, bon, bah, la puissance du sacrement de baptême n'est pas toujours évidente à discerner. Et ben voilà que finalement, le Seigneur nous propose dans le sacrement de mariage de nous mettre aussi à l'école de sa parole, à l'école de l'Église, à l'écoute de l'Esprit-Saint, pour que ce sacrement prenne toute sa dimension, toute sa plénitude, se vivifie dans nos vies et soit efficace. Parce que s'il ne s'agit pas d'avoir un sacrement comme un beau papier, une belle photo qu'on laisse dans un coin du salon, et puis qu'après, elle sert à rien d'autre qu'à se rappeler que, ah oui, on était jeune et beau sur cette photo.
Et c'est ça on a l'habitude souvent de dire que, effectivement, le sacrement de mariage, c'est le salut, c'est le don du salut, c'est-à-dire ce qui n'était, c'était cette porte d'ouverture à la bénédiction originelle, mais que souvent ce trésor, il est inexploité. Et effectivement, Jean-Paul II invite d'ailleurs, prend tout à fait conscience que ce salut est donné, mais souvent, entre guillemets, qu'il n'est pas accueilli. Et l'accueil de ce salut, c'est en fait la vie dans l'Esprit-Saint. C'est l'accueil de l'Esprit-Saint qui vient faire fructifier les fruits de ce salut. C'est un peu comme, pour beaucoup d'entre nous, c'est comme si on avait par exemple un fantastique trésor qui était mis sur notre compte en banque, mais on n'avait pas les codes, on n'avait pas les codes de la carte bleue, on n'avait pas les clés. Alors, on voulait être milliardaire, si je n'ai pas les codes, ça ne me sert à rien. Aussi comme si jamais, à notre mariage, on avait une fantastique voiture, on ne va pas citer de marque ici, bien entendu, mais une magnifique monospace pour pouvoir accueillir tous nos nombreux enfants, il n'y a pas la clé et il n'y a pas d'essence. Alors, on peut avoir une fantastique voiture, on ne peut pas avancer. Et ça ne va pas nous aider à avancer dans nos vies. Et justement, c'est la clé d'entrée sur le trésor, sur le compte en banque, et la clé de contact, ou l'essence, justement, c'est l'accueil de la vie de l'Esprit-Saint, qui n'est pas un invertébré gazeux, c'est une personne que nous pouvons accueillir dans nos vies, toute l'importance, mais ça on y reviendra, sur l'aspect de la vie de prière, etc. Et c'est pour ça que, dans l'évangile de Luc, Jésus dit « Je suis venu allumer un feu sur la terre ». Vous imaginez les uns et les autres, dans nos vies, dans nos propres vies, et aussi dans chacune des vies dans le monde aujourd'hui, si vraiment le sacrement de mariage est accueilli comme le salut conjugal, oui, vraiment se réalisera la prophétie de Jésus. « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Le jour où vraiment ceci est accueilli, effectivement, le feu sera sur la terre. Rappelez-vous cette parole, on va y revenir souvent, je suis désolé. Mais quand le biographe de Jean-Paul II parle de tout son enseignement évangélique sur le mariage comme une bombe pastorale, effectivement, je pense que Jésus déjà le prophétisait. Combien c'est fantastique, parce que ça répond aux aspirations, pas cathos, religieuses, etc., aux aspirations existentielles, conjugales de l'humanité entière. Donc c'est pour ça que c'est effectivement une aspiration profonde.
Alors c'est là où on voit que c'est une bonne nouvelle absolument incroyable. Évangile, tout le monde sait que ça veut dire bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que quand on croise quelqu'un dans la rue ou son voisin ou quelqu'un qui nous téléphone pour nous donner une bonne nouvelle, c'est vraiment quelque chose qui nous réjouit, qui nous change la vie, qui nous transforme. On apprend quelque chose qui va illuminer toute notre journée. Et bien là, on est en train d'apprendre que par ce don, le Christ est capable de faire jaillir l'amour là où il est en train de mourir. Et ça, c'est une inversion complète du sens de tout ce qu'on entend autour de nous et tout ce qu'on voit de cette vie sans Dieu où l'amour tarit, l'amour ne cesse de s'étioler. Et comme diraient les gens du monde aujourd'hui, ben, profite bien de ton épouse au début parce que dans quelque temps, t'en auras vraiment jusque-là. Alors, oui, Alex, tu peux rebondir si tu veux ajouter quelque chose.
Oui, je pense à la même chose. C'est l'évangile de Cana. Je pense que beaucoup parmi nous le connaissent, mais on va le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, où Jésus était à une noce avec ses disciples, avec sa mère, et la noce commence, et le repas de noces commence, et le vin vient à tarir. Et c'est là que Jésus change l'eau en vin, et que le maître de la noce, en goûtant ce vin, en disant « Mais, oh là là, mais ce vin est meilleur que le premier, et n'est-ce pas plutôt le contraire, normalement, qu'on fait ? D'abord, on commence par le bon vin, puis quand les gens sont un peu gris, ou un petit coup dans le nez, ben effectivement, ils ne voient plus tellement la différence, et on met du moins bon. » Et nous avons, il y a plein de choses à dire sur cet évangile, et je pense qu'on y reviendra encore, mais là encore, on peut focaliser sur un point. C'est quelle est la loi du monde et quelle est la loi évangélique. La loi du monde, et on voit bien tout aujourd'hui, on te dit, voilà, tu tombes amoureux, c'est le pied, tu prends ton pied, tu t'envoies au quatrième ciel, au septième ciel, et il n'y a aucun problème, mais de toute façon, tu prends le pied au début, et après, c'est décrescendo. Alors, ça met 3 jours, 3 mois, 3 ans, 30 ans, mais de toute façon, t'iras à un moment, ça va s'assécher. Et le vin, d'abord, ça va devenir de la piquette, et après, il n'y en aura plus. Voilà. Bon, alors après, vous restez peut-être un peu ensemble, et vous allez vous en mettre tout le reste de votre vie. Voilà. Ça, c'est la loi du monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut partir sur différents types d'expériences à droite et à gauche. Quelle est la loi évangélique? La loi évangélique, c'est que même de la pauvreté de votre eau et de votre amour, Jésus la transforme en vin, et un vin bien meilleur encore que le premier vin des noces. C'est que la loi évangélique du mariage, c'est que l'amour peut être crescendo. Bien sûr que le vin peut avoir déjà un bon goût dès le départ, mais ce n'est rien à côté de ce que vous allez goûter en crescendo. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est tout un travail de pétrissage, de conversion. C'est des passages difficiles, etc. etc. Rien n'est facile. C'est un travail de longue haleine. Mais c'est la promesse de Jésus. Ma promesse n'est pas vaine, je vous assure, c'est le salut et votre bonheur va grandir en crescendo. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'une détresse profonde du monde et aussi de nombre de chrétiens de faire l'expérience que l'aspiration que je mettais dans mon mariage, dans ma famille, est source tellement d'amertume. C'est même plus du mauvais vin, c'est plus de la piquette. Ça dit même à des moments du vinaigre. Eh bien, si jamais tu accueilles Jésus dans sa plénitude, si jamais tu accueilles vraiment la foi dans ce qu'elle veut dire, si jamais tu accueilles vraiment le salut dans ce qu'est le sacrement de mariage, alors on peut accueillir personnellement, en couple, un amour qui est en crescendo. Et ça, c'est vraiment important d'accueillir cela. Et on sait que ça peut toucher nombre de personnes de dire cela, ça peut réveiller des blessures. On est certain que beaucoup parmi nous sont touchés par cette parole. Mais le Seigneur vient nous parler avec miséricorde. Il vient éclairer, non pas pour brûler, mais pour guérir. Pour guérir. Seigneur, viens nous conduire.
Je crois que si nous partageons tout ça avec vous, c'est parce que nous avons d'abord expérimenté cette bonne nouvelle dans notre vie de couple et que beaucoup autour de nous sont aussi des couples qui ont traversé ce miracle de Cana et qui ont vu les fruits de cette expérience extraordinaire du salut dans nos vies de couple conjugales, concrètes. Et quand ce qu'on vous partage là par rapport à ce salut, c'est pas une notion uniquement de catéchisme, c'est, comme disait Jean-Paul II à un moment, une expertise en humanité. Le Christ est expert en humanité parce qu'il sait comment nous sommes faits. Et il est le seul à pouvoir nous sauver, c'est-à-dire restaurer en nous cette nature bénie que le Père a voulu pour nous. Et donc, ce que nous partageons là, ce sont des faits. Ce sont des expériences que nous avons traversées. Nous ne disons pas ça comme quelque chose de théorique. Nous savons, nous, pour nous, Alex et Maud, que sans le Christ, combien de fois notre amour aurait coulé? Combien de fois il ne serait resté que de l'eau? Et peut-être, à ce jour, nous ne serions plus ensemble depuis longtemps. Et bien voilà que nous avons expérimenté les premiers ce que beaucoup, beaucoup ont expérimenté derrière nous, cette grâce du salut.
Et bien avant nous, et bien avant nous aussi, et bien avant nous, bien entendu.
Cette grâce du salut qui revivifie et qui donne une saveur à l'amour que jamais on n'aurait pu imaginer.
Alors c'est là où on va essayer vraiment, pendant les prochaines rencontres, vraiment d'approfondir combien effectivement cette bonne nouvelle, comme pour la Pentecôte, rappelons à la Pentecôte, ceux qui écoutaient les disciples, il est dit dans l'évangile, ils étaient stupéfaits et perplexes. Effectivement, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle? Voilà. Et effectivement, ils jamais dit, mais ils sont complètement sous, ils sont pleins de vin doux. Et certains parmi vous, peut-être, disent, mais Alex et Maud, vous avez bu, qu'est-ce que vous avez bu ce matin, hein?
Non, non, rassurez-vous, bah, nous ne sommes qu'à l'eau.
Voilà. On va attendre peut-être la semaine prochaine pour essayer de continuer à cheminer ensemble avec cette parole de Dieu. À très bientôt et à la semaine prochaine.
Et bonne semaine à tous.
Strengthen you in every good thing you do and say. God loved us, and through his grace, he gave us shining hope and encouragement to continue us forever. God, the Father, and from the Master, Jesus Christ.